France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine, et en particulier, évidemment, sur la disparition de Jean-Marie Le Pen. Et puis, pour le débat, nous recevrons un de nos grands magistrats, ancien juge pour enfants, enquêteur international sur des atrocités de masse. Il dirige aujourd'hui la commission reconnaissance et réparation pour les victimes d'agressions sexuelles commises par des religieux. Réparation, un mot au cœur de son engagement et de son dernier essai, Pour une autre justice, la voie restaurative, aux presses universitaires de France. Une réflexion puissante sur la justice pour qu'enfin elle prenne soin vraiment des victimes. Cette nouvelle idée de justice, Antoine Garapon viendra la défendre dans le débat. Mais pour l'instant, place au duel.
Le grand face-à-face. Thomas Negarov sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour.
Très heureux de vous retrouver, de vous associer évidemment à nos remerciements à vous qui nous écoutez chaque semaine. Si nombreux, on a eu des chiffres et ça nous fait bien plaisir et ça nous engage aussi bien sûr. On va commencer le duel cette semaine avec le décès de Jean-Marie Le Pen annoncé mardi.
Dans les hommes politiques, il y a des parts de lumière, il y a des parts de critiquables, des parts d'ombre. Jean-Marie Le Pen a été un grand patriote, pupille de la nation, engagé volontaire en Indochine, qui s'est battu en Algérie, qui a démissionné de son poste de député pour aller se battre en Algérie.
Vous posez la question,
combien
est-ce qu'on parle d'un hommage ?
Mais combien de politiques auraient aujourd'hui ce courage-là d'aller mettre leur peau au bout de leurs idées ? Aucun.
Un homme courageux, patriote, c'est en tout cas ce que pense Louis Alliot, premier vice-président du Rassemblement National aujourd'hui, qui a donc rendu hommage à l'homme qui a fondé le Front National en 1972. Gilles, l'héritage de Jean-Marie Le Pen, on le voit, il est assumé par le RN d'aujourd'hui, il est très lourd, mais est-ce que sa disparition, c'est pas aussi un fardeau qui disparaît pour eux ?
On peut partir de ça, de la manière dont les uns et les autres, et notamment les différentes composantes de l'extrême droite française ont réagi à la mort de Jean-Marie Le Pen. Il y a eu, quand on regarde attentivement à la fois les tweets, les déclarations personnelles, les déclarations officielles, donc celles de, disons, d'Éric Zemmour, en passant par Marion Maréchal Le Pen, Marine Le Pen, Jordan Bardella, le Rassemblement National. Je mets à part le registre personnel, et qu'on comprend aussi bien de la part de Marine Le Pen que de Marion, et qui l'une et l'autre l'ont exprimé. Marine Le Pen termine son tweet par « Bonne mère, M-E-R, papa », et Marion Maréchal commence par « Daddy ». Bon, on comprend ça. Donc il y a le registre personnel. Mais ce qui est intéressant sur le registre politique, c'est que dans ce rapport à Jean-Marie Le Pen qui a fracturé l'extrême droite, on voit en réalité les convergences. Et moi, c'est ça qui m'a frappé. J'invite les auditeurs à regarder le clip que le Rassemblement National a fait en hommage à, et je dis, et c'est bien réellement en hommage à Jean-Marie Le Pen.
Qu'est-ce qu'on y voit sur ce clip ?
Alors, c'est les mots, c'est le visionnaire, c'est le courage, c'est le patriote, et ça se termine par, c'est le Rassemblement National, c'est pas Éric Zemmour. Il restera dans les mémoires comme un combattant intrépide et indomptable au service d'une vision fière et conquérante de la France. Et on voit que cet héritage, qui n'est pas seulement un héritage familial, mais on voit qu'il y a un héritage politique et que la rupture, eh bien, elle a de grandes limites.
Natacha, même question sur l'héritage, le fardeau, la disparition n'est pas aussi, certes, un moyen de tourner la page de manière émouvante pour eux, mais aussi quand même un moyen de tourner la page d'une époque à souvent on renvoie le RN à cette époque-là et ça peut être un fardeau parfois.
Oui, alors en préambule, je voudrais juste revenir sur le personnage Jean-Marie Le Pen. Parce que pour ma part, je n'ai eu affaire à lui que deux fois dans des interviews télévisées. Et dans ce court laps de temps, j'ai pu ressentir une forme de violence intérieure, de brutalité que j'ai rarement rencontrée chez un individu. Et surtout, une forme de jouissance face au malaise qu'il suscitait, face à cette posture du diable qui était la sienne, on sentait, je vais dire le mot, une perversité, très sincèrement. Et je pense que ça raconte beaucoup de ce qu'il a provoqué dans la vie politique française. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout cela. Gilles a tout à fait raison sur la question de l'héritage et du fait qu'il y a des choses qui collent et qu'en fait, l'extrême droite française, que ce soit l'extrême droite zémouriste ou le Rassemblement national, ne se décolle pas complètement de cela, bien sûr. Mais je crois que ce qui me frappe quand je regarde ce qu'il a été, c'est surtout la catastrophe qu'il a constituée pour la vie politique française parce qu'il a empêcher de penser sur énormément de sujets. Et c'est là toute la perversité du personnage. Ça n'est pas un hasard s'il surgit en 1983, c'est-à-dire au moment où il y a à la fois la marche des beurs, le début des effets de la désindustrialisation, c'est-à-dire cette concomitance entre une souffrance des classes populaires, un abandon par la gauche de ses promesses et le constat que des générations de jeunes Français issus de l'immigration surgissent et réclament à faire partie pleinement de la République. Et à partir de là, on va voir avec toutes ces errances idéologiques, comment il arrive à capter, c'est une sorte de Moloch en fait, un trou noir de la vie politique, c'est-à-dire que chaque sujet qu'il touche est absorbé et sort du débat serein et du débat intelligent. Donc évidemment, son espèce d'obsession permanente et délirante sur l'immigration a empêché de penser la question migratoire de façon apaisée et calme, mais c'est vrai sur d'autres sujets. Parce que en 1990, enfin dans les années 90, lui qui était totalement réganien, anti-État, opère une mue.
C'est lui avant Marine Le Pen, comme
bien sûr.
On lit trop souvent ça.
En fait, il perçoit, parce qu'il avait de l'instinct, il perçoit que la construction européenne, Maastricht, la mondialisation sont en train de fragiliser les bases de l'ensemble du système politique et il s'engouffre là-dedans. Et de ce fait, il n'y a plus moyen de penser sereinement les effets de la mondialisation. Je pense qu'il a eu cet effet-là et que nous n'en sommes toujours pas sortis.
Gilles, ce que vient de dire Natacha, c'est aussi le succès de Jean-Marie Le Pen, à savoir que ses idées aujourd'hui, qui étaient quand même extrêmement marginales, se sont centralisées, en tout cas au centre du débat politique. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup cité les réactions du RN, les réactions des autres, à part d'une partie de la gauche qui a d'ailleurs manifesté, ça a choqué beaucoup de gens d'ailleurs dans les rues, il y a quand même eu beaucoup de mots assez euphémisés. Il y a 10 ans, je suis pas sûr qu'on aurait dit les mêmes choses après la mort de Jean-Marie Le Pen.
Je partage pas votre sentiment.
Tant mieux, ça fait le duel.
Absolument. Non, je trouve que si on essaie de réfléchir à, évidemment à chaud, mais à ce que peuvent être la trace ou les traces de Jean-Marie Le Pen, il y a la trace historique où il a été, sans avoir jamais exercé un quelconque pouvoir, disons, une incarnation de l'extrême droite chimiquement pure, qui s'était construite dans les années 50 et 60 de la colonisation, et qui a émergé, connu son apogée dans le dernier quart du XXe siècle. Et sans doute restera-t-il aussi pour, je ne sais pas si le mot existe, mais pour la démarginalisation de l'extrême droite. Bon, avec un point d'orgue qui est 2002, la qualification inespérée, inattendue pour le second tour, et dans le même temps, le peuple dont il se revendiquait, qui se lève contre lui, et les plus de 80% de Jacques Chirac au deuxième tour. Donc ça, c'est sans doute la trace historique, mais sur la trace idéologique, sur ce que vous évoquez. Je pense que Jean-Marie Le Pen n'avait pas comme ambition la conquête du pouvoir. Je ne sais pas s'il avait la conquête des esprits, en tout cas de la bataille culturelle, c'était sans doute plus un agitateur qu'un idéologue, mais je crois qu'il n'y a pas eu de lepénisation des esprits, pour le coup, pour reprendre la formule qu'avait utilisée Robert Badinter. Il y a eu, disons, un demi-succès sur l'immigration. Demi parce que l'immigration est allée beaucoup plus à l'agenda et en tête de l'agenda politique et avec une tonalité
succès, donc demi-succès, parce que les thèses sur l'immigration qu'a défendu Jean-Marie Le Pen, l'assimilation entre l'immigration et le chômage, l'immigration zéro, n'ont pas connu de succès, mais échec idéologique surtout sur ce qu'était la vision de l'histoire de Jean-Marie Le Pen, sur ce qu'était sa vision extrêmement conservatrice de la société, sur ce qu'était sa vision de l'homme et de l'inégalité entre les races. Tout ça, en fait, a été balayé et contrairement à ce que vous dites, je pense que de ce point de vue-là aussi, c'est un échec.
Alors, je suis entièrement d'accord avec cela. En effet, le terme « l'eupénisation des esprits », pour moi, fait partie de ce qui empêche de penser. Je ne crois pas qu'une majorité de Français ait basculé vers l'extrême droite. Et ce n'est pas parce qu'il peut y avoir une inquiétude sur des flux migratoires importants, sur l'absence d'intégration, que les gens sont lepénisés. Ce terme-là raconte avant tout les échecs de la gauche et la façon dont une part entière de la gauche, a arrêté de penser. Mais c'est véritablement ça, c'est-à-dire qu'il suffisait de se dire opposé au Front National et opposé à Jean-Marie Le Pen pour se faire croire qu'on était encore de gauche. Mmh. Et ça évitait de penser la mondialisation, de penser la destruction des classes populaires. Mais
je discutais avec un ami après la mort de Jean-Marie Le Pen, un ami de droite, qui me disait, en fait, les jeunes qui manifestent dans la rue, leur joie, ils devraient avoir honte, en fait. Est-ce que vous partagez ça ?
Alors, je ne sais pas s'ils devraient avoir honte. C'est surtout absurde. C'est surtout bête. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est surtout l'importance qui a été donnée au fait qu'une centaine de jeunes gens sont allés sabrer le champagne. Enfin, peu importe, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est que nous voyons aujourd'hui, et je pense qu'on va y venir en parlant tout à l'heure de Elon Musk et de tous ces phénomènes-là, nous sommes à un moment où, justement, nous passons à autre chose. C'est-à-dire que ce qu'a amorcé Jean-Marie Le Pen en France, est en train de se passer, mais d'une manière très différente et, j'allais dire, dans un chaos bien plus vaste.
Donc, l'eupénisation du monde, mais pas de la France.
C'est pas une l'eupénisation. tout cela, ce sont les effets concrets d'une dérégulation massive et d'un abandon de toutes les promesses des démocraties vis-à-vis notamment de leur classe populaire.
Un mot pour conclure.
Oui, juste un mot sur les manifestations. Est-ce qu'il faut avoir honte ? Est-ce que c'est... Ouais. Est-ce que c'est absurde ? Ce qui est sûr, c'est que ça a été un dérivatif extrêmement commode pour une partie de la droite et de l'extrême droite, pour ne pas parler de Jean-Marie Le Pen, mais pour s'indigner d'autres choses.
C'est
Je
vrai.
Disais, la tribune qu'a écrite Chantal Delsol, qui est une philosophe conservatrice dans le Figaro de cette semaine sur le sujet, elle rappelle à raison que le respect des morts fait partie de
la civilité,
dans toutes les civilisations humaines. Elle évoque une danse macabre, un comportement obscène. On peut ressentir une forme de malaise, mais elle rappelle elle-même, et c'est ça qui m'a intéressé, qu'il y a une exception, qui est la mort du tyran. Et elle dit ça de l'Antiquité jusqu'à nos jours, en concluant, Jean-Marie Le Pen n'a pas soumis son peuple à son joug. Et évidemment, il n'y a pas une libération concrète comme il peut y avoir à la mort d'un tyran. Mais je pense qu'on peut interpréter ce qui s'est passé comme une forme de libération symbolique. Et c'est là où on voit à la fois ce qu'a fait peser Jean-Marie Le Pen pendant des décennies et à la fois le caractère illusoire de cette libération parce que les problèmes restent plus que jamais devant nous.
Le grand face-à-face, le duel.
Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région.
Emmanuel Macron, lors de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs, c'était en début de semaine, et ces mots qui ont suscité un émoi en Afrique, notamment au Sénégal et au Tchad, où on a ciblé l'arrogance du président français. Natacha, est-ce que c'est un faux pas, ce qu'on vient d'entendre, ou bien un président qui dit ce qu'il pense et qui pense qu'en effet, l'Afrique aurait peut-être dû faire preuve d'un peu plus de gratitude à notre égard ?
C'est-à-dire que le problème...
Je pose la question.
Le problème, c'est que ça ne se pose pas comme ça. Alors, premier point, ce discours est beaucoup plus vaste et d'accord. beaucoup plus intéressant que ce seul moment oui. qui a focalisé oui. l'attention.
C'est parce toujours
que,
comme ça. Hein.
De fait, oui, c'est toujours comme ça. Et parce que, de fait, c'est assez caractéristique de la façon dont Emmanuel Macron, en général, parle de l'Afrique ou parle en Afrique. Et moi, ce qui m'a frappé dans ce passage de son discours, c'est la phrase qui suit juste après. La France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide. C'est absolument magistral comme façon de retourner la situation. Je note d'ailleurs que bon, ne sachant pas,
ça n'a pas marché, etc.
Voilà, ne sachant pas faire pomme F sur un discours, je n'ai pas pu compter le nombre de fois où le mot lucidité était employé.
Maintenant, vous savez le faire, on vous a expliqué avec Gilles.
Exactement, mais c'est assez caractéristique, c'est-à-dire que ce mot revient en permanence, et il sonne comme un aveu d'échec, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas de la lucidité, c'est le constat que, malgré le fait qu'Emmanuel Macron cherche dans ce discours à défendre son bilan, il y a en Afrique quelque chose de terrifiant.
Dire qu'on est lucide, c'est ne pas l'être.
Exactement. C'est un révélateur terrible. Mais il me semble, malgré tout, qu'il ne faut surtout pas en rester à cette dimension qui est celle de la position de la France en Afrique. Évidemment que nous savons tous qu'il y a eu un retard terrible justement dans la lucidité, dans la capacité à comprendre ce qui se jouait, le travail de sape de la Russie et de la Chine sur ce terrain-là. Tout ça, il est passé à côté largement et il se réveille un petit peu tard. Mais sur le reste, ce qui est intéressant, c'est la tentative de dessiner une vision globale du monde, de défendre une Europe qui soit capable de prendre en compte les nouveaux dangers de ce monde et de le faire en toute liberté. Sauf que là aussi, l'appel à la lucidité révèle toutes les fragilités. Par exemple, quand Emmanuel Macron dit « Nous avons une alliance, l'OTAN, qui doit s'adapter aux menaces dans l'espace euro-atlantique sans chercher à se déployer au-delà au risque de diluer ses moyens. » Là, c'est l'aveu tout simplement qu'il n'a pas réussi, et pourtant Dieu sait qu'il a essayé et qu'il s'est battu et qu'il a eu raison de se battre, il n'a pas réussi à empêcher les pays européens d'être embarqués dans la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine. Il y a beaucoup d'autres exemples oui. de cet ordre-là dans ce discours qui sont très intéressants.
Gilles, dans le discours, la tonalité, c'est quand même de dire les règles du monde ont changé, si on ne s'y adapte pas, on va disparaître. Les mots d'Emmanuel Macron sont d'ailleurs assez jolis. Hein. On aura le plaisir d'être dévoré. Est-ce que c'est existentiel ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour la France ?
Quel est l'état du monde ? Qu'est-ce qu'on nous pouvons y faire ? Qu'est-ce que nous devons y faire ? Je crois qu'en cette rentrée 2025, il n'y a sans doute pas de questions oui. plus décisives, plus que jamais. Et le grand intérêt de ce discours, et je pense qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de chefs d'État et de gouvernement aujourd'hui en exercice qui sont capables de déployer un discours avec une vision aussi large. L'intérêt de ce discours, et c'est pour ça, de ce long discours, hein, c'est plus de 2 heures de discours devant les ambassadeurs, c'est de poser cette question-là. Évidemment, on a retenu le spectaculaire, et c'est ce par quoi vous avez commencé, le dépit sur l'Afrique, et aussi la sentence sur l'Algérie en demandant la libération de Boualem Sansal, l'Algérie qui entre dans une histoire qui la déshonore. Ces deux phrases-là ont provoqué, ont focalisé l'attention, ont suscité des réactions. Je ne suis pas sûr qu'elles aient été habiles. En tout cas, ce dont je suis certain, c'est qu'elles ont détourné de l'essentiel, qui est la question que je posais et qui est en réalité le cœur de ce discours. Et donc sur l'essentiel, je crois qu'il y a deux choses, je vais en parler peut-être que d'une qui est, il y a à la fois l'analyse et les orientations, les conclusions qu'on en tire. Mais sur l'analyse elle-même de l'état du monde, ce qui est très frappant, je trouve, en lisant le discours d'Emmanuel Macron, ce n'est pas un discours fataliste, mais c'est un discours d'une gravité, même d'une extrême gravité sur l'état du monde en ce début d'année 2025. C'est vrai sur les enjeux géopolitiques régionaux. J'étais très frappé de ce qu'il dit sur l'Iran. Il dit « on est tout près du point de rupture ». De ce qu'il dit sur la Russie, puissance escalatoire, pour reprendre sa formule, ce qu'il dit des enjeux globaux et de leur évolution, risque de régression de l'agenda climat, risque de sortie des États-Unis et de privatisation de l'OMS et de privatisation des enjeux de santé, fragmentation de l'architecture financière, terrorisme, la menace n'est pas derrière nous, mais devant nous. Donc, une analyse des dérèglements du monde, je trouve qu'il devrait susciter le débat et qui est presque trop optimiste, au moins sur un point. On comprend pourquoi, dans sa position, le président de la République est aussi prudent sur Donald Trump.
Oui.
Mais il y a ça, en plus, évidemment, qui vient ajouter au désordre du monde.
On va y venir sur cette dimension américaine du désordre du monde. Mais dans ce que vient de dire Gilles, ce qui est terrible, c'est qu'on a le sentiment que ça vient d'un président faible aujourd'hui. On voit la démission aussi de Trudeau. Ces gens qui portaient un discours de ce type-là, aujourd'hui, sont faibles. Est-ce qu'ils sont audibles au-delà de la puissance de l'analyse ?
C'est tout le problème et il apparaît, me semble-t-il, dans tous les passages du discours qu'Emmanuel Macron consacre à l'Europe. Et moi, cela m'a véritablement frappée parce qu'en fait, on est passé de ce discours de 2017 sur une souveraineté européenne, etc., à presque un appel au ressaisissement, parce qu'il y a des phrases très intéressantes dans le discours. Je vous cite « Les États européens ont un rôle clé car, je le rappelle, l'impulsion est donnée par le Conseil et c'est exécuté par la Commission. » Pardon, mais c'est un rappel essentiel à un moment où Ursula von der Leyen est en train de prendre des libertés avec le statut de la Commission et d'essayer d'imposer des choix qui sont des choix qui sont néfastes, notamment pour les industries françaises. Et ce n'est pas un hasard si Emmanuel Macron cite dans ce discours le mécanisme EDIP, qui est le mécanisme d'utilisation de l'industrie de défense. Et Ursula von der Leyen fragilise l'industrie française. De même, cette phrase « Soyons lucides, au moment du dernier acte d'élargissement massif que nous avons porté, la France a beaucoup moins bénéficié de l'élargissement que nos voisins allemands. Nous avons été moins bien organisés et moins volontaristes. Merci, on a le droit de le dire maintenant. »
Le grand face-à-face, le duel.
Allez, troisième sujet du duel, qui n'est pas d'ailleurs éloigné de ce qu'on vient de se dire, parce que c'est un enjeu majeur pour l'Europe, ce qu'il se passe aux États-Unis dans le domaine notamment de la libre expression. On écoute les propos cette semaine qui ont beaucoup fait parler, les propos de Mark Zuckerberg, le patron de Meta, c'est Instagram et Facebook que je vais traduire. Nous allons revenir à nos règles, à nos racines, et nous intéresser à la réduction des erreurs, simplifier nos politiques, restaurer la liberté d'expression sur nos plateformes. Plus spécifiquement, voilà ce qu'on va faire. D'abord, nous allons revenir sur le fact-checking, remplacer ça par des commentaires des abonnés, comme ce qu'il se passe sur X, et ça va commencer aux États-Unis. Quand Trump a été élu en 2016 pour la première fois, les médias traditionnels ont écrit sans arrêt sur la désinformation, qui était une menace pour la démocratie. On a essayé de bonne foi de prendre en compte ces problèmes sans devenir les arbitres de la vérité. Mais les fact-checkers ont justement été trop orientés politiquement et ils ont détruit la confiance, notamment aux États-Unis. C'était Mark Zuckerberg, le patron de Meta, qui regroupe notamment Facebook et Instagram, qui prend, on l'a entendu, un désert de Elon Musk à quelques jours de l'investiture de Donald Trump. Moins de modération, plus de fact-checking, promotion du free speech contre la prétendue censure de la bien-pensance. Gilles, est-ce qu'on assiste à une trumpisation de l'ensemble des médias sociaux américains et au-delà, est-ce que vous y voyez un danger pour la démocratie ?
C'est exactement un cas pratique du nouveau monde dont on vient de parler dans le débat précédent. Et je crois qu'il faut regarder ensemble les déclarations de Donald Trump cette semaine sur le Groenland, le canal de Panama et le Canada. Les ingérences politiques d'Elon Musk en Allemagne, au Royaume-Uni, et les déclarations de Mark Zuckerberg. Il y a une forme de répétition là-dedans, et donc on finit par s'habituer. Ouais. Et je pense qu'il ne faut pas s'habituer et qu'il faut continuer avec exactement la même indignation. Ce qui se passe est tout simplement hallucinant. C'est-à-dire que on a l'impression d'être dans une réalité parallèle, mais voir le président des États-Unis avec le rôle qu'il a, Elon Musk, dire ça, et maintenant Mark Zuckerberg, ça dénote un climat, ça dénote une évolution. Tout ça avant même l'investiture de Donald Trump.
Dans une grosse semaine.
Ouais. Bon. Et donc, je crois qu'il faut se préparer au choc que va être le mandat de Donald Trump. Sur les annonces de Mark Zuckerberg, j'étais allé visiter le siège de Facebook en 2017. Et j'avais été frappé, c'est la première fois que je ressentais ça. Pour la première fois de ce qu'était une plateforme globale. Il y avait Facebook, leurs 3 milliards d'utilisateurs, et leur seul sujet était de maintenir la confiance entre l'un et l'autre. Et les États étaient des grains de sable dans cette relation. Mmh. Le changement est radical. Là, Facebook, Meta, est, comme les autres, d'abord une plateforme américaine. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment la déclaration de Mark Zuckerberg en est une illustration. Et je crois qu'il faut lire attentivement. Vous en avez fait un bout de ce qui est passé. Il dit c'est l'élection de Donald Trump est un point de bascule culturel. Il y a ce symbole du transfert des équipes de la Californie au Texas. Et le point le plus important, il dit nous allons travailler avec Donald Trump pour faire pression sur les gouvernements qui s'en prennent aux entreprises américaines, d'abord l'Union européenne. Et donc ça, qu'on parlait de lucidité tout à l'heure, il faut avoir cette lucidité-là. Non seulement c'est une reddition politique et idéologique par rapport à Donald Trump, mais c'est surtout un acte de défiance, voire d'hostilité envers l'Union européenne. La bataille est en vue et il faudra l'aborder avec courage.
Oui. De la lucidité, donc, encore une fois, Natacha, et de la vraie lucidité.
Je prolonge ce que vient de dire Gilles, parce qu'il faut tout de même rappeler que Meta refuse d'appliquer la RGPD en Europe, que Meta est sous le coup d'une procédure à partir du Digital Service Act européen sur la protection des mineurs. Donc, il y a un enjeu extrêmement concret, en fait, dans ce bras de fer. Et on voit bien, à travers les déclarations de Donald Trump sur le Groenland, comme à travers la déclaration de Mark Zuckerberg, qu'on est dans une brutalisation des rapports, mais qu'il y a un intérêt, et un intérêt très concret.
Voilà, parce que j'aimerais quand même qu'on s'arrête un peu tous les trois là sur, parce que Gilles a mis, et vous aussi, bout à bout des choses qui, a priori, n'ont rien à voir. Menacer le Groenland, liberté d'expression chez Zuckerberg, ou ingérence politique de Musk sur l'Europe, c'est quoi le lien entre les trois? Quel sens vous trouvez commun à tout ça, à part la brutalisation?
Le lien, c'est la défense partout et sans respect du droit international des intérêts directs des États-Unis. Le Groenland, ce sont avant tout des ressources. Mmh. Et dans un contexte où le réchauffement climatique est en train de faire de l'ensemble de cette zone-là une zone extrêmement importante où la Russie veut se développer, le Groenland devient un enjeu. Et donc, Donald Trump lance cette espèce d'ultimatum parce que c'est une base pour ensuite discuter de la possibilité pour les États-Unis d'exploiter ces ressources. Et de même, là, il s'agit pour les GAFAM d'imposer, et donc pour la puissance américaine, d'imposer sa façon de gérer l'espace public à une Union européenne qui pourrait être réticente. Et ce qui est très inquiétant, c'est le silence d'Ursula von der Leyen. C'est-à-dire que autant le 17 décembre, elle a fait une grande déclaration contre l'ingérence de TikTok dans la présidentielle en Roumanie, autant là, les pudeurs de gazelle de la Commission européenne sont effarantes et nous racontent beaucoup de ce qui risque de se passer. Et c'est pour ça que j'en reviens aux quelques petites phrases du discours d'Emmanuel Macron qui sont en fait une alerte face à cela.
Je vais prendre une rhétorique quasiment Finkelsteinien. On a un principe. Le principe, c'est America first. Et un moyen, la brutalisation et la loi du plus fort. Est-ce que j'ai bien résumé, Gilles?
Formidable. Formidable. Juste un mot. On vivait sur l'illusion d'un schéma qui ne nous était pas très favorable, dans lequel l'innovation se passait aux États-Unis et la régulation pouvait se passer en Europe. On a vu avec le RGPD que ça pouvait à peu près marcher quand même un peu. Ce qui se passe là avec le revirement de Mark Zuckerberg, c'est que sur la régulation des plateformes et demain sur la régulation de l'IA, c'est là-dessus que la bataille entre les États-Unis et l'Europe va se mener.
Et notre invité qui nous a déjà rejoint a commencé à prendre beaucoup de notes parce qu'on parle déjà, sans même y prendre garde, de justice, de victimes et de grands coupables. Place au débat du grand face-à-face.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Antoine Garapon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes magistrat, ancien juge pour enfants, enquêteur international sur des atrocités de masse. Vous dirigez aujourd'hui la commission reconnaissance et réparation pour les victimes d'agressions sexuelles commises par des religieux. Votre dernier essai que vous avez mis 6 ans à écrire, donc il est important pour vous et pour votre œuvre, il s'appelle « Pour une autre justice, la voie restaurative aux presses universitaires de France », un livre qui propose une nouvelle idée de la justice, davantage centrée, et peut-être même exclusivement centrée, sur la réparation, et le mot est important, des victimes. Et comme beaucoup de Français, j'ai personnellement découvert ce qu'est la justice restaurative en allant au cinéma et en voyant ce film.
Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans.
Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ?
C'est des victimes qui rencontrent des détenus.
Oui, c'est ça.
Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien. On écoute, on accueille, inconditionnellement.
J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard.
J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses.
Je verrai toujours vos visages. Le film de Jeannery, pareil, qui est sorti au cinéma il y a 2 ans. La justice restaurative, c'est le mot qu'on va beaucoup employer ensemble, Antoine Garapon. Ça existe déjà dans un cadre plutôt limité. Vous aimeriez que ça soit largement élargi. Mais pour qu'on comprenne bien tous de quoi on parle, les besoins du grand pédagogue que vous êtes, de quoi s'agit-il ?
Le passage qu'on vient d'entendre, c'est un film qui a beaucoup marqué l'opinion française. On voit très bien ce qui est restauratif dans cette rencontre, dans ce face-à-face entre des victimes d'un certain type de crimes et des auteurs de ce même type. Mais c'est pas encore de la justice. La justice, c'est quand on va s'attaquer à des gens qui ont réellement été victimes et on va essayer de trouver une voie pour la justice, alors que la justice pénale ne peut plus faire grand-chose. Je m'occupe de personnes qui ont été violées dans l'enfance, entre 9 et 14 ans, par des religieux. Je les vois 40-45 ans après les faits. Les auteurs sont décédés, la prescription est acquise, la justice ne peut rien faire. Puis combien même le voudrait-elle que il y a plus de preuves, comment savoir ce qui s'est passé dans un confessionnal il y a 45 ans dans un collège religieux. Donc c'est la tentative de vouloir réparer quelque chose qui est irréparable de facto parce que 45 ans c'est l'espace d'une vie.
Alors comment on fait ? Comment c'est possible ?
Comment c'est possible ? C'est en remettant la victime au centre et en changeant, ce qui est très difficile pour un juge étatique comme moi, qui a été formé et je continue d'ailleurs d'y accorder une très grande valeur à la procédure et aux règles de droit et voire la punition. Mais c'est changer son état d'esprit en se centrant sur la victime et finalement la justice restaurative opère un bouger de toutes les notions. Je vais prendre simplement un petit exemple. Un fait. Pour la justice, dans la justice, on s'intéresse à un fait. On cherche à établir un fait par des preuves. Et puis on cherche à comprendre les conséquences de ce fait, pour la victime. Quand quelqu'un vient 45 ans après, ce qu'on voit, c'est ce qui est important, c'est bien sûr le fait générateur, c'est la totalité d'une vie. D'une vie écoulée, et en général mal écoulée, ou avec des choses qui sont pas passées. Et donc, notre manière de raisonner est complètement différente, et c'est l'expérience et que je relis de mon expérience de juge des enfants, comme celle de la lutte contre l'impunité pour les atrocités de masse ou pour les violences commises par des religieux. Ça veut dire on va dissocier la perspective punitive et procédurale qui garde toute sa valeur, et on va mettre à côté la perspective, une autre perspective, une perspective qui est celle de la réparation. Et pour ça, il faut commencer par restituer aux victimes leurs paroles. Les victimes, finalement, elles disent, quand je pense à des victimes de Bataclan avec lesquelles j'ai travaillé également, elles disent, bah, voilà, on est victime d'un truc terrible qui nous arrive, et puis tout de suite, les policiers nous interrogent, et bon, c'est plus vraiment ce qu'on disait. Les avocats, ils cherchent à ranger ça pour la comparution en justice. Les journalistes, je suis navré de le dire, mais ils prennent une partie. Les artistes, ils voient les choses à leur manière. Les psychologues qui nous introduisent dans cet univers du psychotrauma, etc. Mais nous, notre vie. Et c'est ça que cherche à faire la justice restaurative. C'est ce pari. C'est ce pari qui n'est pas toujours gagné, mais c'est ce pari de procéder d'une justice qui va partir d'abord la restitution aux victimes de leur parole et donc de leur maîtrise sur leur destin.
Une dernière question avant de donner la parole à Gilles et Natacha. Est-ce que vous considérez que le simple fait que la victime voit son coupable lourdement condamné ne suffit pas?
Ben non, ça suffit pas parce que d'abord ça peut la culpabiliser. Elle peut se dire, bon, est-ce que vraiment ça méritait ça? Un souvenir personnel, une jeune, qui m'a beaucoup marqué, je m'en souviens encore 43 ans après. C'était une petite fille, quoi, une jeune fille, pas très grande, qui va dénoncer son père pour des actes d'inceste. Elle rentre chez elle après l'audition de police. Ah, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que tu dis? Elle s'est défenestrée. Ça, c'est un échec terrible. Et c'est un échec terrible parce que sa culpabilité, elle pouvait pas supporter ça, la pauvre gamine, à 16 ans, ou même elle n'avait pas 16 ans encore, d'ailleurs. Comment est-ce qu'elle pouvait supporter l'opprobre familial? Est-ce qu'on a réussi collectivement? Non. On a tout raté. Et après, j'ai beaucoup traité d'affaires d'inceste. Si vous voulez, je suis frappé d'un paradoxe, et c'est là d'où procède l'écriture de ce livre. Le paradoxe, c'est que les crimes les plus graves et réputés les plus fondateurs sont les moins condamnés, voire ne sont pas condamnés du tout. On n'a toujours pas fait en France le procès de la torture de la guerre d'Algérie, alors que c'est l'armée française qui a inventé cette technique de lutte anti-insurrectionnelle qu'on a ensuite répandue en Argentine, aux États-Unis, etc. Il y a les chiffres de la CIVIS qui sont ce qu'ils sont, mais bon, 160 000 actes d'inceste ou de violence sexuelle sur les enfants par an, des viols très très nombreux. Qu'est-ce qu'on condamne? Et dans l'Église, j'appartenais à la CIAZ, c'est-à-dire à la commission qui a établi le nombre de victimes, 240 000 victimes depuis les années 50. Combien de punitions là-dedans? Donc, il faut partir de cet échec collectif de la justice punitive.
Gilles.
Oui. Toujours pour bien comprendre de quoi il s'agit. Je crois que vraiment ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre à la fois d'un théoricien et d'un praticien, et que vous vous placez du point de vue des victimes, mais de manière très concrète, c'est-à-dire de leurs expériences et de leurs attentes. Peut-être toujours vraiment pour bien comprendre, c'est quoi les modalités de la justice restaurative? Comment ça se passe? C'est quoi cette réunion-séparation? J'utilise cette formule-là que vous utilisez, page 133. Donc, comment ça se passe et quelle est son ambition? Vous avez dit une des modalités qui est de retrouver la parole. Il y en a une autre que je trouve très intéressante, je voudrais que vous expliciez, qui est se projeter à nouveau dans le temps. Vous dites l'ambition, c'est de substituer à l'objectif d'une culpabilité prouvée l'horizon d'une innocence retrouvée. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est très beau, ça. Antoine Garapon.
Vous posez beaucoup de questions en trois minutes. Non, comment est-ce qu'on fait? D'abord, partir de la parole, d'une certaine écoute, ce qu'on appelle l'écoute et croire. C'est-à-dire une écoute, pas seulement bienveillante, mais une écoute qui va pas s'arrêter ou chercher à vérifier ce que font tous les juges, et c'est leur métier. Donc, une parole, une audition, une forme d'écoute, une rencontre, et une rencontre qui n'est pas la rencontre avec son agresseur, qui est un peu un mythe. C'est la rencontre avec l'institution qui a organisé, couvert, permis, fermé les yeux sur ce crime, et une rencontre qui se fait sur une commune réprobation de ce qui s'est passé. Et je suis frappé, j'ai beaucoup lu Jean Améry, qui est un auteur qui m'a énormément inspiré, et lui dit, après la torture quand il est arrêté à Anvers, il dit « Ce que j'aurais voulu, c'est retrouver mon agresseur pour qu'on se retrouve ensemble dans une commune négation de ce qu'il m'avait fait. » Et c'est ça ce que demandent les victimes. Donc une rencontre qui n'est pas du tout, et je bannis tout vocabulaire religieux, de la réconciliation, du pardon, un peu gnangnan et toxique dans le fond. Non, le paradoxe, c'est que il faut que la victime se retrouve, rencontre son passé, une fois pour toutes, ce qui est douloureux pour elle, qu'elle se retrouve pour se séparer ensuite, et alors que le but de la justice pénale, c'est de trouver un équilibre, c'est la symbolique de la balance, et un équilibre, combien vaut un acte, combien vaut un préjudice, comment est-ce qu'on peut réparer, là c'est irréparable. Une personne qui vient entre la soixantaine, elle n'a pas pu se marier, elle supporte plus d'être touchée, elle peut plus toucher elle-même un corps, c'est ça et donc elle n'a pas eu d'enfant, et donc c'est l'objectif de la justice, c'est lui permettre de dépasser, de surmonter ce qui s'est passé pour la relancer dans la vie. Et ce qu'on constate, et on a fait constater parce qu'on a été audité, expertisé par une psychologue absolument indépendante, une sociologue pardon, absolument indépendante, et ce qu'on constate, c'est que tout d'un coup, si vous voulez, l'action de la justice restaurative, c'est de permettre de mettre à distance quelque chose, un traumatisme qui avait envahi toute la vie et toute la personnalité.
D'où ce mot très puissant de réparation, comme une maladie qui a gangréné la réparation. Juste un mot quand même, vous parlez beaucoup d'inceste, de crimes, d'atrocité. La justice restaurative ne s'applique pas à l'ensemble de tout ce qui est justiciable dans le pays.
Ah non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas répondu à Gilles Finkelstein sur un mot qui me semble très important et qui m'a, là aussi, le mot innocence. Dans le fond, la justice, elle fait deux choses. Elle établit une culpabilité tout en réaffirmant une innocence. Et elle le fait de plus en plus, d'ailleurs, depuis le XXe siècle et la fin de la peine de mort. C'est-à-dire que on voit ce mécanisme, on voit cette dualité de la fonction de la justice, se développer aujourd'hui pour les majeurs en matière d'addiction, c'est ce qu'on appelle la juridiction résolutive de problèmes. C'est ce que je faisais en tant que juge des enfants, c'est-à-dire que des enfants qui ont des problèmes énormes et dans des familles extrêmement dysfonctionnelles, à la fois on les protège et on les condamne quand il le faut, à la fois. Et donc je crois que la justice, c'est à la fois une affaire de culpabilité et une affaire d'innocence.
Natacha.
Alors, je vais partir d'une phrase que vous écrivez. En partant de la victime, la justice restaurative rompt avec une tradition millénaire, au moins en Occident, qui liait l'idée de justice à un surplomb, à un principe de distribution, à un équilibre recherché dans le cosmos, à un commandement divin et aux lois de la cité, c'est-à-dire à des règles autant qu'à un ordre. J'ai l'impression qu'il y a dans ce processus de justice restaurative, en fait, un bouleversement absolu. Vous soulignez le fait que depuis Rome, la justice, c'est un souverain, c'est le coupable que l'on va juger. L'ordre souverain, c'est soit le roi, soit le juge qui représente la société, le procureur. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, c'est une autre conception de l'humanité. Nous recevions la semaine dernière François Hartog sur un livre formidable sur ce que c'est qu'être un homme. En fait, vous prenez une vision différente de l'articulation entre l'individu et la société à travers la justice, si je vous comprends bien.
Antoine Garapon.
Tout à fait, c'est-à-dire que ce qui caractérise le fait d'être torturé, de l'inceste, etc., c'est une expérience éthique que ne suffit pas à exprimer la règle et la définition du mal comme la transgression d'une règle. C'est autre chose. C'est un exil du monde. C'est une solitude morale extrêmement profonde. Et puis, j'ai été frappé dans tous les secteurs dont on a parlé, par ce fait que beaucoup d'agresseurs, on ne sait pas exactement, mais c'est probablement autour de la moitié, sont d'anciennes victimes. Ce sont des enfants qui ont été violés eux-mêmes. La Cour pénale internationale, elle a réussi peu d'affaires. Elle en a une qu'elle a menée à son terme, c'est Dominique Ongwen, qui est un membre de l'armée du Seigneur, prof de Joseph Kony, qui a fait des choses épouvantables. Le problème, c'est que Dominique Ongwen, il a été rapté sur le chemin de l'école à l'âge de 7 ans ou 8 ans. Et qu'on lui a fait tout ça à lui. Donc, en d'autres termes, il y a cette énigme, cette fascination terrible de la répétition de ces crimes. Et quand je vois des délinquants et des gros braqueurs, des gros délinquants, je constate qu'ils ont eux-mêmes subi des violences terribles dans leur enfance. On parlait du terrorisme, c'est le cas des terroristes également. Donc, j'ai voulu dans ce livre prendre la question de la justice de face, sans chercher le faux semblant de la règle. Dans le fond, oui, c'est ça, le mal auxquels nous sommes confrontés dans ces affaires-là, qui ne sont pas toutes les affaires, vous avez raison de le signaler, on ne peut pas se satisfaire de dire c'est une transgression. Non, c'est beaucoup plus qu'une transgression.
Vous nous dites donc qu'il faut réparer les victimes pour éviter parfois qu'elles ne deviennent à leur tour des coupables.
Bien sûr, c'est une des grandes... C'est quelque chose que j'ai découvert en travaillant sur les victimes d'abus sexuels. Elles sont absolument hantées par le spectre de recommencer. Tel garçon qui réussit très bien ses études, quand il sort de ses études, il dit ben, « je veux devenir chauffeur routier international ». Comme ça, je pars le lundi matin et je rentre le vendredi soir. Bon, sa femme comprend pas, personne comprend à vrai dire. Ça dure des années. Et puis, il était absolument hanté par le fait de changer sa petite fille, d'avoir à la toucher et à lui changer ses couches. Il ne le pouvait pas. Et il était dans l'incapacité de le dire à sa femme, de le dire à tout le monde d'ailleurs. Il nous l'a dit 40 ans après. C'est pour ça que... etc. Donc, si vous voulez, il faut partir de la victime, c'est pas une expression, c'est pas un slogan...
C'est pas du marketing.
Non, c'est pas. Il faut pas faire de la polémique autour de ça. Il faut regarder. Il faut regarder jusqu'au bout l'horreur de la condition des victimes en général, et encore plus particulièrement de celle-ci.
Gilles.
S'agissant du viol, vous écrivez que c'est le seul crime dont l'auteur se sent innocent et la victime coupable. Quand on regarde la manière dont s'est déroulé le procès de Mazan, alors on est sur la, non pas sur de la justice restaurative, mais sur de la justice ordinaire, est-ce que vous avez le sentiment que ce procès peut être une forme, en tout cas pour les victimes et pour notamment Gisèle Pélicot, une forme de justice restaurative?
Ben oui, ce qui est très intéressant dans ce procès, mais je pourrais dire la même chose des procès de terrorisme, mais c'est une évolution qui montre que ces deux modèles de justice ne sont pas incompatibles. Au contraire, tout l'enjeu de la justice aujourd'hui, c'est de les combiner. Et c'est que la justice a fait son travail dans le viol de Mazan. Elle a servi aussi de scène d'une très grande explication collective, voire mondiale, ce qui est aussi une des fonctions de la justice. Et elle a permis de voir, et on a vu qu'un quart, au moins un quart des auteurs étaient des enfants qui avaient été victimes de violences sexuelles. Et en même temps, elle a accordé une très grande place à la parole de la victime, et grâce au courage de Gisèle Pélicot. Et moi, je fais un rapprochement avec ce qui s'est passé dans le... on est au moment de la commémoration de l'attentat de Charlie, du massacre de l'Hypercacher, et eh bien ce qu'on voit, c'est que on est capable dans la justice, c'est nouveau, de faire un procès qui va consacrer une très grande place à l'écoute des victimes. Alors vous savez, dans le milieu judiciaire, combien de collègues disent « Oh, c'est de la thérapie judiciaire, c'est pas vraiment notre job ». Ben si. Et c'est à cette évolution de culture que j'invite ou que j'aspire pour combiner cette dimension procédurale, garantiste et punitive qui est bien sûr évidente, et la dimension restaurative.
Ça vous me faites penser à un grand oncologue que je connais qui considère que c'est pas que de la chimie, il faut aussi s'intéresser à l'esprit, à ce qui se passe pour mieux guérir d'un cancer. Vraiment, en vous écoutant, je fais des parallèles avec ça, Natacha.
Oui, justement, je voulais prolonger cette question-là parce qu'on voit très bien en vous lisant à quel point on entre dans l'intimité de l'individu, donc dans ce qui est de l'ordre de la psychologie. Et je voulais savoir quelle était là aussi la façon dont on pouvait penser le rôle de la psychologie, parfois de la psychanalyse. Est-ce que cette justice restaurative, c'est aussi, elle est nécessaire parce que ce travail de psychologie, de psychanalyse n'a pas toujours lieu. Enfin, vous voyez comment ça se joue.
Non seulement il n'a pas souvent lieu, mais parfois il est même rejeté. Souvenez-vous de Manuel Valls, expliquer c'est justifier.
Bien sûr.
Voilà. On est loin de vous là.
Alors c'est une excellente question et je constate que vous avez parlé de l'intime. En fait, on assiste aujourd'hui à une politisation de l'intime. Et c'est une très bonne chose. Nous sommes dans des sociétés qui se comprennent à partir de la sexualité, ce qui est un paradoxe, alors qu'auparavant, elles se comprenaient plutôt à partir du sacré ou d'un idéal. Et donc, je crois que la condition de victime ne peut pas être ramenée exclusivement à un psychotrauma. Et c'est un débat que j'ai d'ailleurs avec des psychologues. Non, c'est un empêchement d'être. Il faut retrouver les catégories qui nous permettent de parler politiquement entre nous, sans le réduire ni à la psychologie, ni à une question policière. Ce qui se passe quand un enfant est violé par son aumônier dans un week-end scout, c'est ce que j'appelle un empêchement d'être. Ce qui va l'empêcher de grandir, de se développer et d'avoir une vie, d'une vie normale. Alors, il faut trouver la place de la justice, de la politique, entre la psychologie, la procédure et le travail des spécialistes.
Et vous savez ce que disait Marceline Leridan, qui était déportée avec Simone Veil ? Elle disait, et ça répond vraiment à ce que vous dites, on a toute sa vie l'âge de ses traumatismes.
Oui, le traumatisme, c'est un présent qui est plus présent que le présent, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vous obsède toute sa vie, et c'est l'expérience qu'on fait tous ensemble à la commission. Et je crois qu'il faut inventer la justice restaurative, c'est une justice civique.
Gilles,
vous avez une vision très très large de la justice, du champ de la justice restaurative qui va au-delà du film de Jeanne-Henri. C'est-à-dire, c'est pas seulement pour les délits de la vie ordinaire, c'est aussi pour ce que vous avez appelé les crimes massifs, les incestes dans l'Église, mais d'une certaine manière Mazan, mais aussi les crimes de masse. Vous distinguez les crimes massifs des crimes de masse, et là, on est sur la dimension internationale, et je voudrais vous interroger à la lumière de ce qui se passe en Syrie. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là, à la lumière à la fois de ce que l'on savait, de ce que l'on découvre. Le ministre des Affaires étrangères était cette semaine dans le centre de torture de Sanaa. Quel est le chemin pour avancer et quels sont les exemples qui peuvent guider ? Vous écrivez, page 127, « La réparation prend alors la forme d'une capacité politique retrouvée. On refait de l'histoire ensemble et la victime devient acteur de la prévention. »
Oui, parce que je prends l'exemple de la Syrie. Je suis en contact d'ailleurs avec des collègues syriens avec lesquels je militais avant que Bachar al-Assad soit congédié. Et je crois que il faut faire des procès, il faut faire des enquêtes, et il faut qu'il y ait des condamnations, des punitions. C'est une évidence. En même temps, si on fait le bilan de ce qu'a fait la justice des crimes contre l'humanité, on estime qu'il y a 186 millions de morts de violences politiques au cours du XXe siècle et qui ont été commis principalement par des propres armées sur les civils, effectivement. Combien de condamnations la justice pénale internationale a-t-elle produite? Le nombre est extrêmement faible. Et je crois que pour la Syrie, et c'est ce que disent d'ailleurs les Syriens aujourd'hui, il faut retrouver des formes de justice qui comprennent pourquoi des Syriens ont pu faire ça à d'autres Syriens, pourquoi on va, et comment, à partir de cette vérité, on va pouvoir revivre ensemble. Vous savez, en Afrique du Sud, on a compris, alors il y a eu les commissions vérité et réconciliation, on a compris autre chose, c'est que quand on accuse quelqu'un, il se tait ou il ment. Quand on lui dit, venez, il n'y aura pas de punition, vous n'avez pas de punition, de peine de mort, pas de punition du tout, mais il y aura une publicité, une publication de ce que vous faites. Eh bien les gens parlent. Et c'est comme ça qu'on apprend des choses qu'on n'aurait jamais pu connaître autrement. Le procès, c'est un instrument pour punir justement, le plus justement possible. Mais c'est pas toute la justice. Et il faut le fait de ne pas accuser, mais d'inviter à une rencontre publique, c'est une manière aussi de connaître et de comprendre des tas de choses. Moi, je rêverais que tous les policiers, les gardiens qui ont participé à cette Naya, à ces horreurs absolument abjectes, puissent raconter spontanément ce qu'on leur a demandé de faire, ce qu'ils ont fait, ce qui est un peu d'ailleurs ce qui est sorti avec l'affaire César.
Antoine Garapon, épris de justice, et que vous priez titre de votre émission Esprit de justice, le mercredi à 20h sur France Culture. Merci beaucoup. Je crois qu'on est tous les trois très très heureux de vous avoir reçu dans ce grand moment, je crois, aussi oui. d'humanité pour commencer cette année 2025. Merci à Gilles, merci à Natacha. Je rappelle le titre de votre livre, Antoine Garapon, pour une autre justice aux presses universitaires de France. Merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clatte à la préparation de l'émission, Marie Merrier à la réalisation et aujourd'hui Philippe Duclos à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France.